Après, c'est vrai que dans un couple, quand on se connaît bien, que tu sais ce qui marche et ce qui marche pas direct, hein, je pense. Et du coup, tu recommences pas. Non, franchement, oui. C'est vrai que c'était pas fun, la fin.
La fin est pas fun. Le début et le milieu, ça va ?
Ça va, oui. Même avec un peu de rondeur, sur le deuxième trimestre, ça a été... Hein, c'est vraiment à la fin où... Oh, ouais, y a quelque chose qui gêne, hein. Surtout le dernier mois, ouais, t'as juste envie que ça, ouais, que de retrouver ton corps, de te retrouver toi, et puis bah bon, il y a toujours l'envie de voir le bébé arriver, mais en fait, oui, physiquement, t'as juste qu'une envie. Enfin moi, en tout cas, je n'ai pas ressenti de plaisir pendant la grossesse, plaisir sexuel. Si sur, non, c'est pas, franchement, c'est pas les mêmes périodes, non. Non, les deux grossesses, hein, c'est sûr. Clairement, c'était pas ma meilleure période dans la sexualité.
Alors voilà, c'est pas fou quand on attend
ça a
un
l'air
enfant.
Génial, hein.
Ouais, ça donne pas très envie. Hein. Alors elles m'ont toutes un peu dit ça qu'effectivement le troisième trimestre c'est juste l'horreur. Le premier, bah, la plupart du temps tu peux avoir des reflux, de la fatigue, t'as le travail en plus, t'as envie de dormir, ton estomac c'est comme le 25 décembre sauf que t'as pas bouffé. Donc c'est pas fou. Et si t'as en plus déjà un enfant, c'est juste la misère puisque lui te fait aussi de la misère. Donc clairement premier trimestre pas fou, il y a un regain, on va dire, au deuxième trimestre où t'as à l'aise dans ton corps, voilà, tu sens que t'es puissante, t'as envie, t'as une libido qui revient, mais le troisième trimestre t'achève un petit peu et c'est un peu compliqué. Par contre, au niveau, enfin, elles le font quand même entre guillemets, et elles vont adapter les pratiques, trouver d'autres positions qu'elles ne font pas habituellement, ou voilà, vraiment adapter à ce niveau-là. Et en tout cas, ce qui ressort quand même, c'est que c'est pas fou. Mais que qu'elles le font un peu. En fait, voilà ce que j'aurais retenu, c'est qu'elles le font, mais que c'était pas fou sur l'ensemble des mois. Donc après, je me suis dit, ben du coup, est-ce que s'il y a pas justement pénétration ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a pas des petites gâteries qui peuvent être faites en compensation ? Et donc moi, j'ai posé la question à la première maman, et tout de suite j'ai posé, est-ce que tu fais des gâteries envers ton compagnon ? Et une d'entre elles m'a répondu, ben, et l'inverse. Donc on va écouter la première, et après on parlera des autres. Est-ce que pendant ces 9 mois, on va penser un petit peu à monsieur, tu fais un petit peu plus de petites gâteries ou de choses comme ça pour ton compagnon, pour compenser entre guillemets, hein, puisqu'il n'y a aucune obligation, aucune pression?
On va dire oui dans un premier temps. Les premiers mois, effectivement, les moments où on s'en est pas trop dans notre assiette, bon, pourquoi pas. Par contre, à la fin, non, j'avoue que non, j'avais pas envie. Et parce que je savais que dans certaines situations, positions, j'allais pas être confortable. Et donc là, lui faire envie ne devançait pas le fait que j'allais être inconfortable. Il y a des situations où il y a des... Ouais, il y a des positions où on respire plus, en fait, clairement. Hein. Des problèmes de respiration. donc voilà. Sinon, il faut que ce soit très, très rapide.
Donc voilà, on retiendra qu'il faut qu'il soit rapide. Sinon, c'est mort, il n'aura rien. Ok, ben merci pour cette réponse très précise. Donc du coup voilà, c'est un peu rigolo parce que c'est un peu un tabou, j'ai l'impression, quand même, la sexualité pendant la grossesse, parce que c'est des réponses concrètes mais un peu vagues, hein. Il y a pas oui on fait telle position ou telle position. Et les gâteries, justement, il y a une de mes copines qui m'a dit, bah les gâteries pour qui? Moi clairement je suis bien d'accord que ça m'arrangerait d'avoir plus de gâteries, mais parce que pour l'homme il faut quand même que la nana se contorsionne, donc c'est un peu compliqué, comme disait la première, ben voilà, elle a quand même le souffle un peu court, il y a quelque chose qui pèse, donc pouvoir faire une fellation ou quoi que ce soit, c'est un peu compliqué. Et à l'inverse pour l'homme, c'est possible, mais encore une fois, il faut s'adapter. Donc en fait, ce que j'ai retenu, c'est que c'est pas ouf, faut s'adapter, mais c'est possible. Et il y en a une qui, parmi toutes ces mamans, était au taquet du premier trimestre, au dernier trimestre, c'est-à-dire qu'elle avait envie, que la libido n'a pas diminué et qu'elle a fait l'amour jusqu'à la veille de l'accouchement, parce qu'elle disait qu'en plus, ça pouvait déclencher l'accouchement. Donc elle l'a fait, elle l'a fait, elle l'a fait. Donc voilà, c'était pour en parler, donc on en parle un petit peu vite, mais en tout cas je trouvais que c'était un sujet intéressant et j'ai trouvé pour le coup tabou. Je sais pas si vous avez des amis qui ont des enfants et qui vous ont déjà parlé de leur sexualité pendant la grossesse.
Non.
Alors non, elles ont pas d'enfants, ou non, elles vous en ont pas parlé?
Non, on n'a pas d'amis.
On n'a pas d'amis.
Moi j'aime pas les gens, en fait. Nous avec les Michel, on a deux copines qui ont des bébés, mais après,
on parle pas.
On n'a pas parlé de ça. Quoi.
Je crois pas que c'est facile à aborder.
Non.
Avec ma meilleure amie plus tard, quand je serai enceinte, j'en parle. Oui, à ma meilleure amie, tu vois, mais je me vois pas là avec mes copines des Michel autour d'une table. Bon, alors, comment je suce mon mec avec un bébé dans le ventre, tu vois, franchement.
Non mais voilà, c'est un peu tabou, et pour le coup moi je remercie les copines qui se sont livrées, et surtout celles qu'on entend, et c'est pour ça que je dis pas son prénom, parce qu'il y a un petit il y a un petit tabou là-dessus, et je trouve que c'est dommage, parce qu'au final voilà, je pense que si les mamans savaient qu'il fallait se déculpabiliser, qu'il fallait pas faire l'amour jusqu'aux 9 mois, que c'était pas grave, que c'était crevé, bah t'es crevé, et que tu peux toujours adapter. J'ai demandé aussi à un homme à l'inverse, quelle était sa position quand une femme est enceinte, et alors lui, bon, pas de changement de libido, toujours envie de sa femme, même qu'elle est avec beaucoup plus de kilos. Les rapports ont évolué, et effectivement, il est nécessaire de s'adapter. Les positions sont plus techniques, j'ai adoré le terme, c'est plus technique. Et pour les gâteries, il est d'accord, mais partagé. C'est-à-dire que c'est dans un sens et puis dans l'autre, donc j'ai trouvé ça hyper cool de sa part. Et ils en ont eu deux, donc je me dis, ils sont forts quand même, ils sont très forts. Donc voilà pour cette chronique, cette heure s'achève, on est toujours sur Radio Collège, en direct, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et on finit avec une dernière chanson d'Elton John. Ah putain, il a gagné. She packed my bags. Sorry seems to be the hardest one. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And a way to find that you're not there.
hyper en retard, on est hyper à la bourre. Donc c'était la musique de Sacha, on s'en fout, elle est pas là, c'était
C'était
What Seems to Be avec Elton John et les Blues.
Hein, les Blues, mais j'adorais super, les Blues. J'avais un crush dedans.
Les Blue Man.
Et c'est hyper canon.
Non, Blue.
Et puis, du coup, je passe la dernière heure à notre ami Mio.
Ah bon ? Je l'avais pas prévu, moi. Une petite virgule.
Les voisins, je crois qu'il y a un truc pas net qui se prépare au ras du collège en face.
Ah ouais ?
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est quoi ?
C'est quoi ce connerie ?
Attends, il y en a, et ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Je crois que je reconnais le Pierre, là. Oh putain, le petit Douglas aussi, là.
Ah, mais il y a de la gonzesse en plus. Ouais. Je crois que c'est les meufs de Michel et Tanville, non ?
Ouais. Ils préparent encore des. Oh, regarde-les, des jeux. Il y en a des blind tests, des quiz. Voilà. Ils vont encore nous faire du bruit toute la soirée. Voilà.
Super. Approche ! Approche ! Fais attention !
La nuit brise glace.
La nuit brise glace !
Le samedi 25 juin, 19h à minuit.
Sur Radio Collège 95.9
et sur radiocollège.fr.
Eh ben oui, c'est maintenant la radio, la nuit de brise-glace, hein, la fameuse, la dernière heure. On arrive au bout du marathon. Je crois qu'on est bien. J'espère que vous vous ennuyez pas trop.
Ah non, c'est cool.
Nous, en tout cas, on passe un excellent moment. Je pense que Stéphane, lui aussi, il est en PLS.
Il doit plus en pouvoir.
Il est en PLS et c'est pas fini. Attention, parce qu'on vous prépare encore d'autres trucs.
J'ai pas fini.
J'ai pas fini, moi, je vous le dis. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'on passe un très bon moment. Je suis très content d'avoir Pierre aussi au téléphone.
Ouais, c'est
notre papa
cool, hein,
et tous. Et du coup, moi, je vais passer mon heure aussi avec ma commandante de bord, ma capitaine de soirée, Lorraine.
Coucou tout le monde, re-coucou.
Je vous ai dit que c'était son anniversaire.
Bon anniversaire, Lorraine.
Alors, encore pour une heure, c'est toujours mon anniversaire.
C'est vrai.
T'es née à quelle heure, Lorraine ?
À 8h30.
Bah, c'est plus ton anniversaire.
Ça dépend.
Mais c'était dans 7-24 heures. En fait, c'est jusqu'à demain, 8h30.
Ah, ouais.
Non, c'est pas comme ça que ça marche.
C'est vrai.
On va parler de ça pendant une heure des anniversaires.
Exactement.
Ah,
exactement.
Cool. Oh, pourquoi pas.
Non, avec Lorraine, on va parler de choses un peu différentes. Et moi, je vais commencer parce que vous connaissez mon habitude. J'aime bien parler de musique, évidemment. Et parfois, quand je parle de musique, y en a qui me comprennent pas trop. Enfin, quand je dis Olivier, viens, on va à la sirène, mec, un groupe de post-punk mass rock grindcore qui passe et tu vas adorer. Et il me dit quoi ? Il me dit, tu me parles de Twitch ? Et non, Olivier, ouais, je te parle de rock parce que c'est vrai que dans le rock, il existe plein de styles différents. Évidemment, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Un peu plus en profondeur, on va dire. Il n'y a pas de virgule ? Moi, je voulais une virgule.
À 23h, il n'y a plus de virgule.
C'est plus de virgule. Ah.
Approche ! Approche ! Fais attention ! Ah.
Alors, le rock, c'est quoi ? D'après vous ?
Qui c'est ? C'est des gens barbus.
C'est des gens. Non, ça, c'est le métal, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent, ça. C'est les opposés. Non, le rock, évidemment, ça existe depuis un petit moment, depuis les années 50, 60, même encore avant, si on veut remonter plus loin. Mais c'est principalement un groupe de 2 à 4 musiciens qui sont très souvent guitare, batterie, basse. Un chanteur, évidemment, soit qui fait de la guitare ou qui chante tout seul, on va dire. Et ils font de la musique électrique amplifiée de leurs instruments. Mais dans le rock, il existe, comme je vous disais, énormément de styles différents. Et comme je vous dis, on est souvent assez perdu. C'est pourquoi je vais vous faire un petit... je vous ai classé en 3 catégories, en 3 grosses catégories, le rock. Pour moi, on a le rock perché, le rock bourrin et le rock qui se vend bien.
Si vous voulez des analyses, n'hésitez pas.
Alors, donc on va commencer par le rock qui se vend bien. Le rock qui se vend bien, qu'est-ce qu'on a ? Dans un premier temps, on a le hard rock. Hard rock, c'est les groupes les plus connus un petit peu. Un peu comme Led Zeppelin, AC/DC ou Deep Purple.
Est-ce que Marilyn Manson est considéré comme un hard rock ?
Non, plus. Non. C'est plus dans le rock classique, un petit peu les pionniers du genre, tu vois. C'est ceux qui ont été là. Marilyn Manson, c'est un copieur.
Qui égorge des poulets sur scène, quoi.
Oui, c'est ça, on en dira. Et donc, le chanteur a souvent une voix très aiguë, assez saturée, le son est souvent criard, et on a des riffs inoubliables de guitare. Et vous savez ce que c'est, un riff de guitare ?
Ouais.
C'est un solo ?
Eh bien, c'est ça !
Ah, yeah ! Elle belle.
Ah oui, c'est Rocky ça.
Vous roulez sur Rocky.
C'est le truc qui se vend ça. Le Rocky se vend celui-là.
En fait, c'est toutes les intros.
Bah, c'est un riff de guitare.
Ah oui. Satisfaction.
Donc c'est ça, les riffs de guitare, c'est des rythmes en fait de guitare avec des tonalités assez faciles à retenir qui sont simples à faire dans un premier temps, mais c'est un peu, dans la musicalité, on appelle ça un peu un gimmick, c'est-à-dire quelque chose qui va se retenir, quelque chose qui va forcément marcher. Et donc c'est ça qui va faire un vrai groupe de hard rock, on va dire. Donc après, le hard rock, on a un peu l'opposé, ce qu'on appelle le pop.
Ah
oui, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est du rock beaucoup plus sage et édulcoré, c'est apparu dans les années 60. On a eu des groupes un peu comme les Beatles, Simon & Garfunkel, ou encore les
Bee Gees.
C'est du pop rock. Et du coup, on a des morceaux un petit peu plus calmes. Non, pas comme
ça.
C'est juste celui d'après. C'est ça. Donc là, oui, c'est quand même très, très glissant.
C'est gentil.
Ça n'a presque plus rien à voir avec le rock. Mais il y a une deuxième période du pop-rock. On est passé des années 60-70 aux années 90-2000, où là, il y a un gros surcroît. Et on a eu droit à des gros groupes de rock, de pop-rock, comme Oasis, Placebo, oui, Keen. Et ça donne un truc un peu plus mouvant.
J'aime pas le pop-rock, c'est dingue.
Ah ouais?
Ah ouais.
Oasis, c'est ça.
Ah, j'aime pas.
J'adore.
Par contre, le hard rock, ouais.
Ça, c'est Muse. Muse? Oui, c'est Muse. Ouais,
j'adore.
C'est considéré comme du pop-rock aussi. Hein.
Ah, j'aurais pas cru.
Ouais, non. Et du coup, voilà, ça c'était le pop-rock, la musique un peu plus calme de la partie sombre du rock, on va dire. Ensuite, dans le rock qui se vend bien, on a lu le garage rock. Ah, Olivier, il me dit, ah, ça, c'est pas ce que c'est, ça.
Je sais jamais ce que c'est, ça.
Donc, ça a été créé dans les années 60, en fait, et ça a été notamment développé par une pédale d'effet de guitare qu'on appelle la fuse. La pédale fuse, en fait, c'est ce qui permettait aux guitaristes qui avaient un son clair dans leur ampli, en fait, d'avoir, tout en gardant le même réglage d'ampli, juste en appuyant sur la pédale, d'avoir un son avec un ampli au bord de l'explosion, en fait.
Oula.
Et du coup, ça crée vraiment, il y a un effet distordu, ouais, qui rappelait beaucoup le heavy metal et tout ça. Et principalement, c'était des groupes, en fait, qui d'adolescents, notamment, qui répétaient dans le garage familial. Et du coup, c'est ça qui donnait le nom garage. Et c'est un style un peu précurseur au punk rock, comme The Sonics ou Iggy Pop. Mais ceux dont on se rappelle le plus, c'est vraiment les groupes de garage populaires des années 2000, avec tous les groupes qui ont un nom de groupe qui commence par The. On l'a The Hives.
The Rasmus.
Oui, non, mais attends, c'est pas tous. Je veux dire, tous les groupes de garage, en tout cas. On a The Hives, The Killers, The Strokes. Alors, je dis The parce que Stéphane m'a dit, on ne dit pas Z.
Ah.
On a The Vines, The Libertines, The Baby Shambles, tous ces groupes-là. Je vous passe un extrait. Salut. Vous avez déjà vu à ton festival?
Non.
Ça,
non.
C'est cool.
C'est trop... Ouais. C'est ça, c'est...
Ça me fait un peu penser au truc d'American Pie. Yeah. American Pie.
Moi, j'ai l'impression de redevenir ado.
Ouais. C'est bon, vous avez un peu capté ce que c'est le garage.
Ouais, ok.
Et ben, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup.
Par contre, le pop rock, c'est vraiment nul.
Bon, c'est très pop le garage quand même. Oh pardon, excusez-moi, je vis.
Je trouve que c'est pas si bête ce qu'il dit. Enfin, je sais pas si j'arriverai à faire la différence entre là les trucs garage et pop. Enfin,
ah ben bah, c'est pas
type,
toujours.
Je dis, j'aime pas du tout l'un et l'autre. T'arrives à faire la différence.
Le pop,
bah, ça
le
j'aime
pop
bien. Et là,
plus...
j'aime...
Ah ouais.
Alors en termes de musicalité, la pop est un peu plus joyeuse. On appelle ça des accords majeurs principalement parce que ça donne envie d'être de bonne humeur.
Ouais.
Le garage, au-delà du son qu'on avait à l'origine. c'est tout de suite un peu plus impulsif. Hein, pas, je vais
t'as
pas
l'impression
dire
qu'il revendique un truc.
Oui. Ouais, mais ouais. T'as envie de marcher, t'as envie d'aller courir, ou je sais pas, d'aller faire la guerre, ou j'en sais rien. Mais...
c'est
un truc cool, hein. Quoi. Tu vois. Chacun son délire, ok. Moi, je vais à la chasse.
Et je rappelle juste qu'on est en direct sur Instagram, s'il y en a qui veulent nous
suivre. Ah, c'est vrai, c'est ça, Instagram. Mais n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Je passe une grosse bise à la 6ème B d'ailleurs de Radio Collège. Je sais pas s'il y en a une. Donc, après, encore un autre groupe où on comprend rien, le rock indé. Ah, alors, le rock indé ou le rock indie, ça dépend comment on l'appelle.
Ça, c'est le rock qui sait pas trop se mettre, il sait pas dans quelle case se mettre, alors il dit qu'il est indé.
C'est un peu ça, on va dire que c'est un peu ça. En fait, alors, ouais, je connais.
C'était
fort. En fait, c'est plus une classification musicale, donc apparue dans les années 70, mais qui a été bouleversée par le mouvement punk et un peu le basculement des majors, des grandes majors de disques, hein, choses comme ça. Et en fait, ça a été surtout pour désigner le terme de distribuer de manière pas autodidacte, mais autogéré, pardon, exactement. En fait, c'est distribué indépendamment des majors de disques. Mmh. Et on va dire que ça se classe vraiment pour le côté, ça se classe pas vraiment pour le côté musical, mais plus pour le mode de distribution qui est un peu différent. Mmh. Après, il y avait quand même une constance de ces groupes-là, de rock indé musical de l'époque, qui recherchaient toujours un mouvement un peu underground et contre-culture authentique, un peu éloigné des standards. Et c'est vrai que récemment, on a des groupes comme ça qui sont qui se classifient rock indé, avec des groupes comme Arcade Fire, Algie, Gorillaz, toi aussi qui adore beaucoup. Ah bah, oui. Gorillaz, ils sont
j'adore beaucoup.
J'adore beaucoup beaucoup. Donc ils se classent ils s'autoclassent en ligne directe.
Non,
Chaka Punk, c'est pareil, c'est du grindcore metal.
C'est pour ça que j'aime bien alors.
Bon, après on va passer donc du coup au rock perché.
Ah,
le rock perché, est-ce que vous avez tous votre petit paquet de champignons avec vous? Je répète avec modération, bien sûr.
Les champignons évidemment. De Paris.
Les champignons de Paris, les vrais Seb. Donc le rock psychédélique. Le rock psychédélique, pour commencer. Vous connaissez, hein?
Les Doors.
Exactement. Enfin, c'est tiré de la mouvement hippie. On retrouve un tempo plutôt lent, ainsi que des tonalités plutôt internationales avec des instruments qui viennent un peu d'artout. Des instruments indiens comme la sitar ou comment s'appelle ton instrument que t'as flow toi déjà chez toi?
Chez nous.
Alors
ça s'appelle le goni, mais à la base c'est une harpe africaine en fait.
La kora. T'es un peu psychédélique toi.
Tout
en fait.
Tellement hein.
T'as du mal à dire ce mot.
Oui.
Le mot psychédélique. Je trouve pas. Non. Bon alors du coup on va s'écouter quelques petits extraits juste pour finir le stock de champignons. De Paris. Lost in a romance, wilderness of pain. Si vous écoutez cette musique dans ce milieu, c'est l'enterrement de l'oublier.
Ah oui?
Ah, j'adore.
White Rabbit.
Oui. Je connais pas ça. Bah, Jefferson Plain.
Ok,
Jefferson Plain. Et ça, Olivier?
Gangnam Style?
King Gizzard and the Lizard Wizard. Ah oui, c'est
ça,
pas
c'est
vrai.
Mon
oui.
Rock préféré, tous, ça,
tu peux me passer le Shilom, s'il te plaît?
On est tous déchirés là-dedans. Donc, alors, en psyché, c'est assez facile à reconnaître quand même. Ensuite, on a quand même le rock progressif. Le rock progressif, c'est du rock qui part un peu en cacahuète un peu partout. On appelle ça aussi le prog rock. Et ça vient du rock psychédélique, mais qui se veut un petit peu plus crédible, car beaucoup plus de technique au niveau musical et instrumental. C'est souvent plutôt associé au jazz, justement,
Pink
et
Floyd.
Au classique.
Non.
Aussi, effectivement. On l'utilise souvent avec des instruments qui n'ont rien à voir à l'origine avec le rock. Et les joueurs de prog rock adorent les morceaux à rallonge de plusieurs dizaines de minutes. Évidemment, les leaders dans cette discipline, c'est
Pink Floyd,
entre autres. On a Magma, aussi, si ça parle à certains. Black Widow, ou encore Queen, aussi, à leur début, dans les années 70. Okay. Ils avaient beaucoup de rock progressif. On écoute un petit peu de rock progressif. Ça, c'est Magma.
Bah, ça, j'aime.
Le morceau Défortuna.
Moi, j'aime pas.
Tu vas pas comprendre. C'est du jazz. Queen. C'est Queen, ça? Génétique, ça fait.
Ah ouais.
mais j'aurais l'impression que c'est de l'électro plus que de du rock.
Ah, c'est des nappes de synthé.
Oui, bah oui.
Ah, c'est Space, ça c'était Genesis, ouais, aussi, qui fait très très bon morceau. Ouais. Et encore, je vous ai mis des extraits. Hein. Là, on est à 0,8% du morceau. Donc voilà, ensuite, on a encore des morceaux, des styles qui se distinguent. On a le post-rock et le mass-rock qui se rapprochent un petit peu. Alors, post-rock, c'est pas évident à déterminer. C'est l'un des styles les plus modernes, puisqu'il allie à la fois un peu l'électro avec beaucoup d'effets de boîte à rythme. Des sampleurs, vous savez, c'est des pétales boucles en fait qui répètent le morceau qu'on est en train de jouer.
Archive,
entre autres, voilà. Et du coup, c'est un mélange entre l'électro et le rock progressif, toujours avec des musicalités techniques plutôt jazzman. Et c'est un genre de musique qui a été très à la mode dans les années 90-2000, qui a connu une forte période de creux, mais qui revient très largement en force. La preuve avec la programmation de La Sirène qu'on a eue cette année, notamment. On a reçu des groupes qui vont rien vous dire, mais qui sont références comme Lost in Kiev, Maserati, E Titanita ou encore The Liminianas. Donc voilà, c'est des groupes de post-rock. Et on a le mass-rock qui est plus technique que le post-rock parce qu'il incorpore des structures de morceaux et de rythmiques très atypiques. C'est-à-dire que, alors que la plupart des morceaux, on va dire, en musique, ils sont en 4-4, c'est-à-dire 4 temps sur une mesure. Là, on a des morceaux, le mass rock est dévié plutôt sur le 7/8e, le 11/8e, ou même du 13/8e. Oui,
mais
oui, vous avez
non.
Bien
non.
Entendu.
Tu déconnes. Tu as vraiment dit ça?
Incroyable. Ouais. Fou. Je pensais pas ça possible.
Donc, c'est vraiment de la musique pour les matheux. On se demande pas d'où vient le nom. Quand je dis mass rock, c'est M-A-T-H, pour math.
Ah,
rock.
Bah oui, bah voilà.
Excusez-moi.
C'est pour ça, c'est
je
pour les
matheux. Je parle en anglais, mais c'est math rock.
Un bel accent, c'est pour ça.
On va écouter un petit extrait. Sortez vos calculettes.
Un morceau en accéléré.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13. Ça, j'aime bien.
J'ai vraiment l'impression que le morceau a un problème.
C'est déstructuré au possible, quoi.
Il est rayé, le disque.
Hein. Les dissonances aussi. Hein.
Bien sûr.
Et voilà, ça c'était vraiment le rock qui est un peu perché, où on sait jamais trop où ça part, mais on aime bien. Moi j'aime bien personnellement. Et on termine enfin avec le rock bourrin. Le rock bourrin en fait, je vais passer rapidement. Donc en premier, nous avons évidemment le punk rock, qui est lié évidemment au mouvement punk, hein, associé au genre. Ça exprime une rébellion jeune et caractérisée par des styles vestimentaires à base de pantalons en carreaux.
Les berruriers noirs.
Oui. Oh, je ne connais pas cet artiste. Et donc, c'est une variété d'idéologies évidemment anti-autoritaires. Et de là, avec la musique aussi, on a des chanteurs qui ne savent pas chanter, des guitaristes qui ne savent pas jouer les guitares, qui sont des accords, qui s'en sortent n'importe où. Mais c'est devenu évidemment un phénomène culturel majeur au Royaume-Uni dans les années 60. On écoute. Un extrait avec Stéphane. Chante-nous une chanson, Stéphane.
Et Offspring, c'est dans quoi?
Génération Stéphane 77.
Non, je demandais, c'est du style de Offspring,
c'est ça? Après.
Il y avait Trust aussi à l'époque, non? Antisocial.
Ouais, aussi. Ouais. Alors, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est difficile de dire d'un groupe que c'est vraiment un groupe de tel ou tel
musique. Oui,
on parle plus d'un morceau qui va être avec des influences. Parce que The Offspring, ils ont fait des morceaux pop, ils ont fait des morceaux comme Americana, là, entre autres. Voilà.
Il y a tellement de mondes de rock qu'en même temps, ça doit être hyper dur de rester dans un seul truc.
On se retrouve souvent avec des groupes qui se disent « Ouais, non, on est un groupe de rock psyché qui fait du post-rock mass, noise grind. » Voilà. Parce qu'évidemment,
ça restreint vachement la possibilité. Quoi.
Ça. Et d'ailleurs, en parlant de noise rock, est-ce que vous savez ce que c'est le noise rock?
Le rock du nez
fait du bruit. C'est drôle. C'est des chanteurs, ils chantent. Non, le noise rock, c'est appelé autrement rock bruitiste.
Ils font juste beaucoup de bruit.
Ah, ils prennent des sons avec des micros et ils font de la musique.
Non, pas forcément. Ça, en fait, c'est un peu le. C'est fini. C'est défini de façon assez large. Mais c'est une excroissance expérimentale du punk rock, en fait. Sauf que les gens le savent encore moins bien jouer. Du coup, on principalement faire du bruit. Ouais. C'est exactement ça.
Prendre des instruments, on fait du bruit.
C'est ça, ils mélangent en fait l'attitude punk avec du bruit, ce qu'on appelle atonal, donc qui n'ont pas les mêmes tonalités. Les structures sont pas du tout conventionnelles. Et bon, d'un côté, il y avait un côté avant-gardiste qui était hyper intéressant. Maintenant, on se laisse pas berner, hein, mais on a des termes qui sont souvent utilisés dans Noise Grind, Noise Core, qu'on trouve aussi pas mal dans l'électro. Ça vous dit d'écouter un petit peu de Noise?
Non, 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 non.
Eh ben Stéphane, c'est parti.
Là, il faut monter le volume très fort.
N'hésitez pas à réveiller mamie, hein.
Ça s'écoute fort ou ça s'écoute pas. Là, c'est du noise rock.
Bah, je pense que moi, je peux faire ça, en vrai. Moi qui n'ai jamais touché un instrument de musique.
Dans la cuisine, on peut faire ça.
Dans la débranche chanteur aussi.
Mais tu dis que là, les gens, ils savent pas jouer et pas chanter
mais si.
Quand,
mais
même.
Quand même. Évidemment que si, c'est juste que...
Oui, pour le coup.
Ça fort,
non, mais celui d'avant, là, j'ai plus le titre, t'as dit, ils savent pas du tout chanter...
Le punk.
Ouais.
Le punk rock.
Bah, pardon, mais c'était vachement chouette.
Ok, bon ben, bah, je crois que tu serais une star dans ton groupe, ça, ça vraiment te chante bien. Bon, on va terminer par un dernier mouvement.
Parce que Spice Girl, t'en as pas parlé, c'est dans quelle
catégorie ?
C'est
vrai, mais ce sera pour la prochaine émission. Pour la prochaine On a le grunge, vous connaissez le grunge ?
Ah oui, Nirvana.
Évidemment, évidemment. Donc pareil, hein, culture underground. Ça a été surtout créé autour de Seattle, hein, dans l'état de Washington, aux États-Unis. Évidemment, qui c'est qui vient de là-bas ?
Eminem.
Peut-être.
J'ai essayé.
Mais Kurt Cobain. Enfin, voilà, on va dire que Nirvana a été créé là-bas. Pearl Jam aussi, Soundgarden, Alice in Chains.
Garden.
Ça s'inspire en fait du heavy metal et du rock indépendant et du punk.
T'as pas défini le heavy metal, hein.
C'est vrai, parce que le metal c'est encore un autre monde, hein. c'est complètement fou. Et donc c'est pareil, c'est souvent par rapport aux paroles en fait où on aura du grunge, les paroles seront vraiment apathiques ou ça va traiter vraiment d'angoisse existentielle. C'est rarement pour mettre de bonne humeur quand on écoute de grunge. Je vous mets un petit extrait. Ah, ça gueule, hein.
Mais il a peur de quelque chose, non, monsieur.
Il a peur par quelque chose.
Il s'est cogné le petit orteil sur une table basse.
Ça, c'est
Nirvana.
Et Gojira, tout ça, c'est du heavy.
C'est du métal aussi. Enfin, c'est pareil, c'est du.
Ouais, c'est du métal comme le monsieur qui crie.
Ah non, parce que.
Même,
attends,
hein.
Gojira, par exemple, c'est du métal. Du green metal. C'est du métal écolo, par exemple.
Ah,
écolo.
Mais... C'est pas du black metal, le black metal, ça pollue.
Excellent.
Ça fait des marées noires.
C'est du rock au goudron.
Ça mazoute les oiseaux.
Bon, j'espère pour vous, ça a été un peu plus clair. En tout cas,
on comprend
un peu
plus.
Je vous dirais, venez voir ce groupe, c'est du grindcore pull metal.
Ah, mais
party.
Le mat machin là, ça m'a fait
le
bizarre.
Mat rock,
ouais, ouais c'est rigolo.
Et ça, c'est ce que je kiffe. Ça, c'est vraiment ce que je kiffe comme
style. Ouais.
Et du coup, bah, je vais vous laisser avec une petite musique. Un groupe que je suis allé voir pas plus tard qu'avant-hier à La Sirène. Ça s'appelle Kokomo, c'est un groupe de Nantes. Le morceau s'appelle Idiocracy Plaint. Je vais meubler un petit peu parce qu'il est super bien ce morceau. Non, apparemment, c'est bon, je peux lâcher. Et laissez-vous bouger les cheveux tranquillement. C'est du rock classique, on appelle ça. Et c'était Kokomo, un groupe de Nantes, comme je vous disais, que je suis allé voir notamment avec Camille hier à la Sirène. C'était bien Camille, hein. On a kiffé, hein. Ouais, franchement, c'était génial.
Moi, j'ai vu des vidéos, il était trop beau, le mec, il faisait de la guitare.
Il est très beau,
et
il chante très
bien. C'est lui qui chantait à cappella, là.
Ouais.
Et pourquoi faut que les rockers, ils aient toujours des cheveux longs?
C'est
pour pouvoir les bouger.
Il y a un forfait pellicule. Ouais, c'est pour les effets de lumière avec les pellicules, ça, en vrai.
Oh, ça fait de la neige.
Eh bien, écoutez... Sur ces belles paroles, j'ai envie de vous laisser dans les bras de ma belle Lorraine qui va nous expliquer plein de trucs hyper intéressants. Et j'espère que vous êtes doués en anglais.
Et comme elle est stressée, je vais la filmer juste là.
Très près. Non, alors je suis stressée, c'est vrai, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé dans l'émission. Et aussi parce que je suis persuadée que ma chronique, elle aurait dû faire partie de la première partie de soirée avec Disney. Que ça aurait été vachement plus adapté.
Est-ce que tu veux ta virgule, Lorraine?
Oui, j'aimerais bien ta virgule. Comme ça, ça me...
Une petite virgulette pour Lorrainette.
Approche! Fais attention!
Oh, super!
Yeah. Vraiment, il voulait la mettre, celle-là.
Ah ouais.
Ok.
Deux fois!
Alors, du coup, en l'honneur, moi, de mon émission de 2017, où je parlais de ce qui se passait sous les jupes des films...
Oh, c'est super, ouais, ça, j'adorais.
J'avais envie de vous parler des poils... Non, je rigole. Je voulais vous parler d'abord de l'adaptation des livres au cinéma, à l'écran, en série, pour rechercher les erreurs qu'il y avait entre le bouquin et le film.
Ah, mais c'était la directe suite de ce que j'ai fait, c'est vrai, en fait.
Pas exactement, tu vas voir ça.
Pas prévu le planning.
Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit que j'avais sûrement la mauvaise approche parce que je cherchais des erreurs alors que c'était juste des différences. Parce que pour passer une œuvre d'un média à un autre, on était obligé de faire des adaptations. Donc, je recherchais la mauvaise chose. Et finalement, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que ces adaptations, parfois, elles étaient juste liées au problème de traduction entre la version originale et la version française, ou espagnole, ou italienne.
On peut tout
donc,
faire.
Du travail de traducteur pour ces œuvres. Et je vais souffler un petit coup.
J'ai oublié de respirer là depuis le début. On va vous rendre compte.
Elle est rouge. La pauvre, on devrait filmer l'autre côté de la
tête. Tu saignes du nez, fais attention.
Si tu fais un malaise, on plongera te chercher direct.
Ok, alors faites ceci, je recommence. J'ai repris mon souffle. Donc, finalement, je me suis rendu compte que le plus intéressant et le plus gros des challenges, c'était pour les traducteurs qui s'attaquaient aux œuvres mondes. Ce que j'appelle une œuvre monde, c'est des œuvres littéraires, enfin des œuvres, des créations, qui créent un monde totalement et complet, total complet et imaginaire, complètement différent du nôtre. Donc, par exemple, il peut y avoir Star Wars, il peut y avoir Le Seigneur des Anneaux, il y a la série Harry Potter, il y a Dune, il y a L'Assassin Royal, enfin, il y en a plein. Et ça, c'est des projets titanesques quand on est un traducteur et qu'on se dit, voilà, j'ai un artiste qui me propose une œuvre avec des termes qui sont totalement
inventer des fonctionnements qui sont totalement imaginaires.
J'avoue, ça doit être hyper chaud, ça.
Bah ouais.
Donc, on se rend pas compte parce que nous, on arrive, on a la version toute cuite et on se dit, ok, ça fonctionne comme ça, c'est clair, mais le mec, il l'a traduit, quoi. Il s'est posé des questions, savoir qu'est-ce que je traduis, qu'est-ce que je garde avec le mot qui a été imaginé. Est-ce que je le garde tel quel? Est-ce que je trouve une adaptation française mieux prononçable, plus compréhensive pour le concept qu'il sous-entend? Et est-ce qu'on doit garder, par exemple, les noms propres tels quels, ou bien parce que le nom propre, il est plus effrayant dans la langue française si on le fait différemment? Enfin bref. Donc, quelle œuvre voudriez-vous que je vous développe parmi les trois que je vous ai énoncés, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux,
Harry Potter, puisque vous
insistez tous,
on va faire Harry Potter.
Mets le seum sur ton visage.
J'ai parlé d'Harry Potter parce que c'est générationnel aussi. Je pense qu'on est nombreux à être
Team des pouf
années
souf.
90, 94, 96.
96, moi, 16. Je regarde avec
mais
insistance.
Mais tout le monde a lu Harry Potter ou a vu les films et donc on a tous un peu grandi dans cette ambiance. Donc ça va peut-être tous nous parler. Donc le monsieur qui a traduit toute la série s'appelle Jean-François Ménard. Et il a pris en charge l'ensemble des œuvres de J.K. Rowling qu'il a découvert au fur et à mesure. Donc il lisait les bouquins au rythme où ils sortaient en langue originale. Et pour la traduction, donc, on va se demander comment est-ce que Hogwarts est devenu Poudlard, comment Snape et Ravenclaw, enfin pourquoi Snape et Ravenclaw ont été traduits en Rogue et Serre d'Aigle, alors que Dumbledore ou McGonagall sont restés tels quels. Dans les deux, dans les langues, ça reste les mêmes. Et comment Jean-François Ménard a-t-il esquivé les pièges que lui a tendu J.K. Rowling avec des jeux de mots ou des anagrammes en mode attention, alerte spoiler, quand Tom Jeu du Sort se dit je suis Voldemort, comment est-ce qu'il avait prévu le bon nom avec les bonnes lettres pour que ça marche?
Je me suis posé la question.
Ah ouais, voilà. Donc c'est plusieurs questions que je me suis attachée à résoudre. Donc je vais commencer par le début, donc le nom de l'école. Donc Hogwarts, finalement, si on le décompose et qu'on le dit en verlan, en anglais, ça fait facochère. Ça fait Wardog.
Hog.
Ah ouais.
Facochère.
Oh, ça se dit comme ça, mais jamais. Ah,
voilà.
Il est 23h44. Il a tenu jusque là, c'est pas croyable.
Et du coup,
je savais pas que tu savais faire.
Mais si, mais c'est le champion du monde.
Trop bon.
Pumba.
Incroyable.
Et facochère en anglais, c'est deux mots qui veulent dire verru et porc. Wart, verru, et hog, c'est porc. Donc le porc est devenu du lard. Et la verrue, un pou. Je ne sais pas trop pourquoi la verrue, un pou, mais bref, du coup, Poudlard. D'accord. Et Poudlard, ça garde quand même une sonorité qui est assez anglo-saxonne. Ouais. Donc là-dessus, il était assez content de sa trouvaille. Et donc, Poudlard est devenu.
Il demande à J.K. Rowling, c'est exactement
ce que j'avais demandé. Ouais.
Ah, bah, je pense.
Parce qu'il lui dit, est-ce que ça te va, Poudlard?
Il me semble que c'est elle qui l'a choisi parce que c'est un traducteur qui avait déjà fait des œuvres pour enfants et qui avait un certain sens de l'humour et une manière de traduire qui essaie de rendre honneur à l'auteur original.
Mais du coup, elle lui laisse carte blanche, quoi.
Mais je pense que et il travaillait jour et nuit, quoi. Il commençait à 6h et il terminait à 23h en lisant là. Harry Potter tout le temps. Pour les noms des professeurs, il faut que je parle, parce que le temps avance.
C'est une super analyse, ça.
Merci. Snape, par exemple. Donc, Snape, c'est Rogue, au cas où vous n'étiez pas au courant. Snape, ça veut dire, en vieil anglais, ça veut dire réprimander ou rabrouer. C'est très négatif. Ah, ouais. Et donc, pour que, dans la lecture, les lecteurs français se rendent compte, en fait, de ce côté un petit peu négatif du nom, il allait chercher dans des langages anciens un mot qui évoquerait la même chose et qui sonne quand même bien. Et il allait chercher jusqu'en Norvège, dans un vieux norvégien anglais, un mot que je ne saurais, c'est pas du tout anglais, un vieux norvégien, un mot que je ne saurais pas prononcer, qui fait sonoriquement penser à Rogue et qui signifie arrogant, désagréable. Donc il a pris ça.
Elle n'était pas fan de post-rogue ou de rock progressif.
Mais franchement, je pense que ça pourrait être un groupe de rock progressif.
Ah oui.
Le truc, c'est avec un H, un R, un trima sur le O et un K.
Ah oui, tout ce qu'on aime.
Voilà. Bon courage.
On dirait qu'il a craché.
Dans un second temps, par exemple, au contraire, Dumbledore est resté Dumbledore. Alors pourquoi ? Parce que dans un langage régional en Angleterre, Dumbledore fait référence à un bourdon. Et il s'est dit que professeur Bourdon, franchement, c'était moyen. Et que du coup, il a laissé tel quel. Pour McGonagall, il y a d'autres... Parce que Minerva, ça avait déjà beaucoup de signification en français, la sagesse, etc. Donc ça, il a laissé tel quel. Et il y a d'autres professeurs qui sont fabuleux. Par exemple, Madame Bibine. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que ça s'appelait à la base ?
Madame Bibine.
Oui,
c'est la professeure de ballet. De Quidditch.
Mais ça fait très genre enfin, Madame Bière. Bah
justement. Justement. Et elle s'appelle Madame Hook. Alors Hook, H-O-O-C-H. Et en fait, c'est le nom d'un alcool anglais. Et du coup, il l'a traduit Bibine. Donc, c'est magnifique. C'est hyper mignon.
Mais du coup, dans les autres langues, Dumbledore, c'est toujours Dumbledore ou pas?
Et ça, je sais pas. J'ai pas eu le temps d'aller voir en espagnol aussi. Mais il faudrait que ce serait à la prochaine émission. Voilà.
Pour les 10 ans de brise-glace.
Ouais. Alors du coup, on a vu des traductions mot à mot pour garder le sens, mais il y a des fois où la traduction française a, pour moi, apporté quelque chose. Par exemple, pour le nom des maisons, pour Ravenclaw. Ah oui. Ravenclaw, littéralement, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut
Raven, vouloir... c'est corbeau, non ?
Ouais.
Ah oui, Clos, ouais, du coup, et voilà.
Clos, c'est les cerfs. Okay. Et en fait, l'emblème de Ravenclaw, c'est même en anglais, c'est un aigle. Et finalement, en français, lui s'est dit, c'est plus joli cerf d'aigle que cerf de corbeau. Et donc, il a appelé cerf d'aigle, et l'emblème, c'est un aigle. Et tout le monde est content. Et ça colle à fond, quoi.
Ah oui, ils sont forts.
Pour Poussoufle, c'est Hufflepuffle. Oui, désolée. Et du coup, ça, pour l'anecdote, c'est le bruit que fait le loup quand il souffle sur les maisons des trois petits cochons.
Oh, c'est mignon.
Donc pour les Anglais, ça évoque quelque chose quand même. Tandis que lui, il a fait une traduction littérale de « il pousse, il souffle, enfin il
bouffe.
Souffle, il bouffe ». En gros, bouffer, c'est... Et donc là, il pousse, souffle. Voilà.
Surtout que l'emblème, c'est un blaireau, rien à voir. Donc
En gros, ici, ils ont du mal à. Du coup, ils sont essoufflés.
Ouais.
Ils poussent et ils soufflent. Voilà. Pour Serpentard, c'est beaucoup plus simple. Slytherin, ça veut dire serpenter. Et du coup, ça devient Serpentard. Pour Gryffondor, c'est un peu nul parce que c'est très facile. C'est Gryffindir et Gryffondor.
Gryffindor.
Pardon. Et voilà, donc pour les maisons, je pense qu'on a fait le tour, sauf sinon, c'est bon.
Ouais, c'est ça.
Alors du coup, maintenant, pour les pièges liés aux acronymes et aux anagrammes. Alors, pour Tom Elvis, jeu du sort, comme je vous le disais, surprise, c'est Voldemort. En fait, il a une technique qu'il applique à chaque traduction qui va commencer sur une œuvre littéraire, c'est qu'il fait une lecture qu'il appelle centrifuge. C'est-à-dire qu'il va lire le premier chapitre d'un livre, puis le dernier chapitre d'un livre.
Ah, c'est horrible de faire ça.
Puis le deuxième, puis l'avant-dernier, puis le troisième, etc. Ah,
mais comme tu ça, dois rien comprendre, quoi.
C'est clair, comme à la chronique de son chat, quoi.
Qu'est-ce que c'est gratuit.
Et il arrive comme ça à cerner des aspects qu'il doit avoir compris dès le début à la fin du bouquin, et il arrive à ne pas faire d'erreur ou à faire moins d'erreurs ou à avoir moins de choses à retoucher.
Mais il arrive à comprendre le livre surtout, à lire comme
mais
ça.
Mais franchement, heureusement que chaque chapitre est assez long pour que ça ait du sens. Mais
c'est un professionnel. Hein.
Ouais, voilà. Il faudrait voir avec lui. Et heureusement que Tom Jeu du Sort dit dans le même bouquin Je suis Voldemort, parce que sinon, clairement, il se serait fait avoir et ça aurait pas fonctionné.
Ouais, on laisse tomber cette partie-là, j'ai pas réussi.
Voilà.
Je l'appelais Tommy Miku, ça marche pas.
Après, un autre truc que moi j'ai trouvé rigolo, c'est par exemple le brevet de sorcier qui
buses,
à la fin. Donc, c'est une buse pour nous. Donc, brevet universel de sorcellerie élémentaire. Eh bien, une buse, c'est un oiseau. En anglais, le diplôme, c'est aussi un oiseau, puisque c'est un owl. Et du coup, c'est Ordinary Wizarding Level. Et donc, il a trouvé un autre oiseau pour faire un brevet.
Il a complètement inventé un autre.
Et il est fort, quand même.
Ouais, je trouve qu'il a...
C'est impressionnant, non
Je pense qu'il est vraiment amoureux de la langue et des langues françaises. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Moi, je vais proposer, si on a le temps, non, après on va peut-être lancer le truc. Je vous propose rapidement un petit quiz. Donc, je vais vous donner des noms en anglais que j'ai pris dans une version que j'étais en train de lire.
Harry Potter.
Et voilà, et vous allez retrouver le mot
on
en face.
On n'a pas Star Wars.
Normalement, ça devrait être assez
attends,
facile.
Non, mais parce que depuis le début, moi, j'attends le Seigneur des Anneaux.
Il y aura
donc
pas.
À un moment.
Il y aura pas.
Non. On lui dit ou pas.
Tu vas revenir pour
pas.
Le faire. Oui, 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 je vais revenir. J'avais un petit peu de matériel.
En fait, on va faire
une
autre heure non diffusée où on en parlera.
Tu restes avec moi là jusqu'à 1h30.
Ok. Alors, Firebolt.
Ah ben, la boule de feu.
Non.
Oui, mais c'est quoi? C'est dans Harry Potter.
Le d'or.
Oui.
Ah. D'or.
Non.
C'est un truc
Firebolt.
C'est un rapport au quiz.
De feu, non?
Oui.
Éclair de feu.
Ah, coupe de
éclair
feu.
De feu. Éclair
c'est
de
le
feu.
Ballet.
C'est le ballet, c'est l'éclair de feu. Sickle.
Sickle?
Ouais.
Je sais pas.
C'est pas les petits bonbons colorés?
C'est ce que j'allais dire, c'est des bonbons, les sickles.
C'est Skittle, sûrement, que tu dis.
Oui,
c'est aussi quelque chose de petit dans une bourse qui va.
Ah, des...
Ah, ben non, j'ai les petites fèves, les petits bonbons là, qui avaient des goûts de crotte de nez.
Non,
tout,
mais
non
ça peut l'aider à en avoir.
Ah. À l'argent les... Ouais. Ah, l'argent, ça s'appelle comment? Les mornilles.
Les mornilles, ah, exactement. Mornilles. Et là, pour l'anecdote, c'est que mornille, ça vient de mornifle, qui est de l'argot et qui voulait dire argent en français, okay, dans le vieux français.
Ah, pour moi, une mornifle, c'était une baffe.
Ben voilà. Poppy pomme fraîche.
Ah bah c'est l'autre, c'est la madame pomme fraîche, non?
Ouais, c'est pomme fraîche. Et en plus je t'ai aidé parce que c'est Poppy pomme fraîche. Mais voilà, lui il a traduit en pomme fraîche. Qui est Cronkshanks?
Cronk, c'est le géant, là, non?
C'est pas le chien de d'Hagrid?
Croque-mou.
Dobby,
non?
Croque-dur.
Non, Dobby.
Je crois que t'as raison.
C'est croque-dur?
C'est peut-être croque-dur.
Ah, tu sais pas? En fait, tu veux qu'on fasse ta chronique à ta place?
Non, du tout, c'est que j'ai pas vérifié.
En fait, j'ai pris
le bouquin, j'ai dit « Ah ouais, mais ça, c'est rigolo. » Oui.
Ah ouais, c'est
en
pas,
fait,
ça,
je me suis peut-être rushée. Je pensais que c'était Patonron, mais...
Patonron, le petit chat, le chat de...
Là, je suis sûre. Scrabbers.
Patonron.
Non. C'est aussi un animal de compagnie.
Ah, c'est Croutard.
Oui, c'est Croutard. Et puis Scrab, c'est vraiment...
Ah oui,
du coup, voilà. Et c'est fini pour la session Harry Potter.
Ah, trop bien.
Cool.
Ce soir.
J'adore.
Trop cool, ouais.
Tu
et
reviens
maintenant, on fait le Seigneur des Anneaux.
On fait faire le Seigneur des Anneaux, il y a plein de trucs, mais...
Ah ben, on en aura appris.
Ah oui, du coup, là, on était sur de la traduction, donc de la communication. Comment bien faire passer une idée, comment s'exprimer auprès de quelqu'un. Et moi, je vais vous parler je vais vous faire écouter un morceau d'un groupe de Le Havre que j'apprécie énormément et qui s'appelle ce morceau Communication 4 des Blinis, de The Blinis,
oui,
à Le Havre. Bringing food.